Une voix crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers, que ce qui est tortueux soit redressé, les ravins comblés, les cimes abaissées. Alors la gloire du Seigneur apparaîtra à toute créature, elle se dévoilera. Voici, la jeune femme est enceinte, enceinte d'un fils à qui on donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous. Voilà bien, frères et sœurs, la manière d'être de l'Éternel notre Dieu, de qui nous recevons la grâce et la paix en surabondance. Dieu avec nous. Voilà bien ce que nous célébrons encore ce matin. Ce Dieu qui vient inlassablement, qui vient vers nous et nous accueille tel que nous sommes. Alors, chantons ce Dieu Emmanuel, chantons ce Dieu qui vient, chantons ce Dieu qui nous relève, chantons-le par ce chant indiqué au début du livret liturgique qui figure au début du psautier français. Dieu qui est ma joie, tu es le souffle de ma vie, tu es la source de mon chant, le feu qui me saisit. Dieu qui est ma joie, toi seul es saint, ton amour est puissance, et par ta parole, le monde entier prend naissance. Dieu qui est ma joie, tu disperses les vaniteux comme la paille dans le vent, mais tu chéris le malheureux comme un enfant. Dieu qui est ma joie, tu renverses les forts, tu dépouilles les nantis, mais tu combles les petits, ceux dont le cœur a faim de toi. Dieu qui est ma joie, tu es fidèle à tes promesses, depuis hier jusqu'à demain. Car en vérité, ta tendresse ne connaît pas de fin. Amen. Frères et sœurs, poursuivons notre louange par le chant du psaume 42. Nous chanterons les strophes 1, 4 et 7 du psaume 42. Thank you. Prenons place. Après que cette strophe 9 a surabondé, selon l'esprit, et c'est peut-être le sens de ce passage de l'Épître aux Galates que je vous propose en guise de volonté de Dieu, peut-être comme un contrepoint à l'Épître de Jacques sur laquelle prêchera Pierre-Olivier Leschaud, notre prédicateur de ce matin, professeur à la faculté de théologie protestante de France. Paul qui ne vient pas pour neutraliser l'Épître de Jacques, car il ne convient pas de neutraliser the Epistle of James, mais comme un contrepoint qui exprime la diversité. Faites-vous par amour les serviteurs les uns des autres, dit l'apôtre Paul. Toute la loi se résume dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le fruit que porte l'Esprit, ajoute-t-il, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et il ajoute, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Éternel, je ne veux pas ce matin faire la liste de tous mes manquements, de toutes mes fautes, de mes faiblesses et de mes imperfections. Je le sais bien, tu le sais bien, je ne suis pas un être parfait. Éternel, je veux ce matin déposer ma vie devant toi, toute ma vie. Non plus seulement les pensées furtives, les prières secrètes, les élans momentanés que je t'accorde quand cela me plaît, mais toute ma vie, avec ses jours et ses nuits, ses grandeurs et ses faiblesses, afin que ce soit toute ma vie qui soit apaisée et renouvelé par toi. C'est vrai, tu n'es pas le seul Dieu dans mon existence. Il y en a tant d'autres, je le reconnais. Et il y en a un immense. C'est moi-même. Ce que je te demande, Éternel, c'est de me libérer de l'angoisse de vouloir tout maîtriser, de me délivrer de la pensée que je dois faire mes preuves à chaque instant. Rappelle-moi que les fruits de l'Esprit viennent de toi. Oui, rappelle-moi que la paix vient de toi, que la vie vient de toi, que l'amour vient de toi, que l'espérance véritable vient de toi. Amen. Écoutons cette parole que nous trouvons dans le livre du prophète Ésaïe. « Ne crains rien, oracle de l'Éternel. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Sauveur. Parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime. Ne crains rien, car je suis avec toi. » Et c'est au bénéfice de cet amour inaltérable que nous pouvons exprimer notre foi en ces termes. Je crois en Dieu. Par lui, l'univers et notre existence se sont créés toujours à nouveau. Dans le chantier du monde, son esprit nous anime et nous porte. Il donne chaque jour à notre vie un sens positif, une dignité fondamentale, une vocation créatrice. Dieu est l'avenir de l'humain. Sa présence éternelle dépasse les espaces et les temps. Je crois que Jésus nous a fait entendre sa parole. Il est celui que nous écoutons et auquel nous regardons pour savoir qui est Dieu et qui est l'homme. Un Dieu d'amour selon la Bible. Un Dieu pour lequel l'être humain et la terre entière sont une espérance invincible. En Jésus, l'homme et Dieu sont à jamais réunis et inséparables. Il est un exemple pour nous et pour le monde. Nous reconnaissons une seule Église, universelle et connue de Dieu seul. Elle existe par-delà les institutions chrétiennes et les frontières religieuses. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Amen.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Frères et sœurs, j'ai choisi comme texte à la base de la prédication d'aujourd'hui un extrait de l'épître de Jacques, cette épître que, à mon sens, nous ne lisons pas assez. D'abord, et peut-être parce que certains réformateurs, comme Martin Luther, ne l'aimaient guère. Vous savez que Martin Luther disait de l'épître de Jacques, c'est l'épître de paille, autrement dit, une épître qui allait être consumée par le jugement dernier. Nous ne l'aimons pas non plus, ou nous ne la lisons pas assez, probablement aussi parce qu'elle a été à la base, pendant des générations, de prédications moralisatrices qui défendaient une morale sévère, rude, disciplinée. Et je dois dire que ces deux lectures, en définitive, ne rendent pas justice au fond de ce texte, dont je crois qu'on peut le lire dans une perspective proprement évangélique, c'est-à-dire dans le sens d'une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Nous lisons donc dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, les versets 2 à 8. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Frères et sœurs, je vous invite à présent à chanter au cantique 278, les strophes 1 à 3, cantique 278, strophes 1 à 3. Prions. Ô Éternel, toi qui nous as permis de t'appeler Père en Jésus-Christ, permet que derrière ces textes écrits par des mains humaines, nous puissions déceler la parole que tu nous adresses à chacune et à chacun. Laisse-nous entrevoir derrière la lettre morte de l'Écriture cet esprit de vie que tu veux nous insuffler. Donne-nous de percevoir au-delà de tes commandements que nous ne parvenons pas toujours à accomplir par nous-mêmes, la promesse éternelle de ton amour et de ta miséricorde. Offre-nous enfin, Seigneur, de porter cette promesse dans le monde, afin que celui-ci en vive dans l'attente de ton royaume. Heureusement que j'ai la foi. Ah, si je n'avais pas eu la foi. Des phrases de cette nature, chers frères et sœurs, nous en avons toutes et tous entendues, et nous les avons peut-être prononcées nous-mêmes. Elles expriment une opinion courante, la profonde conviction que la foi encourage, rend fort, voire qu'elle procure un sentiment d'imperturbable assurance, bref, qu'elle est une forme de sécurité face aux difficultés de la vie, et qu'elle peut même renverser devant nous les plus fortes murailles, ainsi que nous venons de le chanter. Mais ici, dans cet épître de Jacques, que Martin Luther n'aimait guère, c'est le moins que l'on puisse dire, la foi se trouve définie autrement, puisqu'elle y est associée à l'épreuve. Il nous est dit en effet que ces épreuves auxquelles nous sommes exposés doivent être considérées dans la foi comme source d'une joie pleine et entière, d'une joie complète, c'est-à-dire qui touche à l'intégralité de notre être et de notre personne. Cette affirmation ouvre à mon sens un questionnement que je crois fondamental. Comment l'épreuve vécue dans la foi peut-elle être considérée comme source d'une joie pleine et entière? Et de quelle épreuve s'agit-il au fond? La réponse la plus simple consisterait naturellement à prétendre que la foi doit toujours s'affirmer face à l'adversité pour s'en trouver renforcée, qu'elle doit tenir ferme afin que nous puissions affronter avec confiance ce cap difficile qu'est l'épreuve et en ressortir grandi, plus fort, plus résistant. Mais ça c'est d'en demeurer à cette explication. Et n'est-il pas finalement révoltant de jeter à la face de ceux qui traversent l'épreuve, la vraie, que celle-ci doit être considérée comme une source de joie s'ils ont vraiment la foi? N'est-ce pas là une affirmation bien scandaleuse pour ceux qui font l'expérience de l'angoisse devant l'inconnu, du divorce, de la séparation, de l'échec professionnel, de la maladie, du deuil, voire de la proximité de la mort elle-même? Ce que notre épître nous dit d'abord, je crois, ce n'est donc pas que ces épreuves sont en fin de compte des accidents de parcours, un aspect additionnel et somme toute négligeable de notre parcours de foi, ou au mieux une infortune survenue dans une vie de foi bien linéaire parce que bien réglée et dont il s'agirait simplement de traverser avec la ferme conviction que des lendemains qui chantent suivront. Non, ce que l'épître de Jacques nous dit d'abord, c'est que l'épreuve, la mise en cause, la fragilité font partie intégrante de l'essence de la vie et donc de la foi. Il nous apprend que la foi n'est pas un remède face à l'épreuve, un passeport sérénité face au mal, mais qu'elle est elle-même épreuve, doute et, j'oserai le mot, tentation. Oui, notre foi se trouve menacée, tentée, mise en question tout au long de notre existence, et cette mise en cause de notre foi est paradoxalement et en même temps source de joie. Bref, c'est lorsque nous doutons que nous faisons face à l'épreuve sous toutes ses formes que la foi peut devenir réellement source de joie. Cette épreuve ne doit donc pas être perçue comme la source d'un déclin possible pour notre foi, comme une éclipse potentielle de la foi ou au contraire comme l'origine d'un renforcement de celle-ci. Elle lui est au contraire consubstantielle. Elle est, à proprement parler, la foi. Pourquoi ? D'abord, parce que cette épreuve est celle du Christ lui-même et qu'elle est aussi celle de ses disciples, de ceux qui veulent bien le suivre. C'est ce que met en évidence, par exemple, l'Épître aux Hébreux, lorsqu'elle nous dit « Nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses, parce qu'il a connu l'épreuve en tout, d'une manière semblable à nous. Et du fait qu'il a lui-même souffert l'épreuve, il est capable de venir en aide à ceux qui sont éprouvés. » Ensuite, et surtout, parce que la foi n'est pas adhésion nue à une doctrine, à une théologie, à un joli système de pensée, fût-il orthodoxe, libéral, protestant, catholique ou évangélique, mais parce qu'elle est, abstraction faite de sa formulation doctrinale, vie, expérience et profondeur de l'être. Or notre être, notre vie, notre expérience sont par essence soumis au changement, à la rupture, à l'échec, à la souffrance et en fin de compte, à la mort. Prétendre que la foi serait étrangère à ces événements ou qu'elle nous permettrait de les considérer comme de simples couacs, ce serait nier le fait qu'elle s'enracine dans notre vie, qu'elle y trouve sa source et sa force, et qu'elle est en somme la vie elle-même. Or, si la foi est consubstantielle à notre vie et aux événements qui la jalonnent, c'est parce qu'elle est elle-même un événement constitutif de notre existence. Chaque parcelle de notre vie, chaque instant de notre existence est en effet le lieu d'une décision, d'une épreuve qui nous impose de choisir entre la foi et la non-foi. Bien sûr, Nous n'en sommes pas toujours conscients et nous n'avons pas à en faire l'expérience au quotidien. La vie, c'est aussi une certaine routine, un cheminement serein et parfois sans souci réel. Mais c'est précisément dans l'expérience du mal, lorsque la linéarité de notre vie se trouve rompue, quand notre être que nous croyons unifié se trouve déchiré, ou lorsque l'ancien est définitivement derrière nous et que l'inconnu se trouve encore devant nous, que surgit justement et de manière inévitable cet événement de la foi que notre texte associe à une épreuve. La foi n'est donc pas cette espèce d'énergie paranormale qui nous porte par-dessus les tribulations de la vie et dont nous entendons parfois parler, mais elle est au contraire, au plus profond de ces épreuves, le lieu d'une décision, d'un choix que nous sommes toujours et encore appelés à faire face à la vie. L'épreuve, c'est ce moment où toute notre existence, en raison des obstacles qu'elle rencontre, se concentre soudainement en un seul point, où tout notre être semble se résumer à une seule question et où notre vie paraît dépendre d'un seul choix, celui entre la foi et la non-foi. Naturellement, cet événement, nous pouvons toujours le négliger, considérer qu'il n'est pas décisif, que tout continuera comme avant et essayer vaille que vaille de restaurer l'ancien, de se réfugier dans ce qui n'est déjà plus, dans les fantômes d'un passé rêvé et fantasmé. Ce choix, ou plutôt ce non-choix, ce choix de ne pas choisir, c'est précisément ce que les textes bibliques appellent le manque de foi, l'oligopistia, ce que des philosophes comme Kierkegaard désignent comme le désespoir, et que la tradition chrétienne, en particulier protestante, appellera le péché originel. Non pas au sens d'une corruption consécutive à la faute d'Adam ou d'un acte moral répréhensible appelant sur nous le jugement divin, mais plutôt d'une définition de nous-mêmes dont nous faisons le choix, d'une glaise dont nous décidons de ne pas nous débarrasser et qui nous englue mais nous rassure, d'une vie moins pleine qui peut sembler étouffante mais qui en même temps semble nous tenir chaud, du moins pour un temps. Bref, le choix du passé contre le futur, de l'immobilisme contre le mouvement, de la mort, même à petit feu, contre la vie. Le péché, c'est lorsque nous refusons d'affronter la vérité en face, de reconnaître que notre vie est soumise au changement et au mal, et que ce changement et ce mal que nous rencontrons nous imposent de choisir entre la vie et la mort, entre l'engagement et le renoncement, entre la confiance et le désespoir, ou comme le dit le Deutéronome, entre la bénédiction et la malédiction. Oui, je crois que ce dont l'épître de Jacques nous parle ici, c'est de l'épreuve du péché, de la tentation de la non-foi, bref, du refus de choisir entre la vie et la mort. Là encore, les mots ne manquent pas pour exprimer les diverses manifestations de cette épreuve. Luther l'appelait la tentation, là où Calvin préférerait parler d'idolâtrie. Peu importe, finalement, le qualificatif. L'image que choisit Jacques est suffisamment transparente. Celui qui doute, celui qui n'a pas la foi, celui qui hésite, ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Un tel homme est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Refuser de faire le saut de la foi face à l'inconnu, refuser d'être soi face au mal, c'est se laisser aller à dire un jour oui et l'autre non, se résoudre à hésiter pour finalement s'enfoncer dans l'indifférence rassurante et l'indolente naïveté d'une vie sans remous. C'est en fin de compte se soumettre au danger de la mort, comme le marin, abandonnant son gouvernail, se laisse porter au gré des flots, au risque de voir son navire s'écraser finalement contre les récifs. Luther, dont je vous ai dit qu'il n'aimait pas cet épître, voyait en revanche dans ce passage un texte très important, et pour cause, car il parlait à ses yeux de cette tentation ultime, la seule, la vraie, celle qui menace tout croyant et dont il avait lui-même fait l'expérience, celle du désespoir, du refus de choisir entre la vie et la mort, du refus d'être soi au cœur de cette grâce qu'est l'existence. Certes, on ne nous dit pas que ce saut de la foi face à l'épreuve, nous devons le faire sans réfléchir, sans autre considération. Ce que l'Évangile requiert d'ailleurs de nous, c'est d'abord la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. La patience, non pas l'absence d'action, la passivité ou la résignation, mais le fait d'accepter le décentrement que l'épreuve dont nous faisons l'expérience provoque en nous, l'ébranlement de ce que nous avions cru être notre identité profonde. Choisir d'opter pour la patience, c'est accepter ce décentrement que la souffrance et le mal provoquent pour s'arrêter l'espace d'un instant, renoncer ou toujours plus de la même chose pour chercher, comprendre, méditer, mais surtout pour écouter et pour demander. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. C'est à nous lire devant Dieu, ou plutôt à nous relire, en replaçant l'entier de notre vie devant l'ultime, le divin, l'éternel, que l'épreuve nous appelle. Demander à Dieu la sagesse, c'est accepter de reconnaître que notre vie ne dépend pas de nous, mais de l'autre. C'est appréhender la possibilité que cette rupture dont nous faisons l'expérience est le lieu même où peut se manifester le divin, l'ultime. Demander la sagesse, c'est décider que derrière cette mort qui semble envahir notre existence, au cœur même de ce doute qui nous assaille et nous taraude, peut retentir une parole de vie, une promesse d'éternité. C'est croire envers et contre tout que notre vie nous est donnée et opter pour la bénédiction première de l'existence, en dépit de la malédiction que nous croyons percevoir dans le monde et dans notre vie. Il ne s'agit donc pas de nier le doute en tant que tel, et ce n'est pas, je crois, ce que veut dire ici notre lettre lorsqu'elle dit qu'il faut croire sans douter. Car il ne nous est pas demandé de refouler le sentiment d'abandon, de souffrance, d'échec que peuvent provoquer les tribulations de la vie. Il s'agit plutôt d'apprendre à les regarder autrement, avec un regard neuf, malgré tout, en dépit de la peur, du doute, de l'angoisse. Le théologien allemand Gerhard Hebling, qui avait connu l'épreuve de la guerre et la perte de son maître et ami, Dietrich Bonhoeffer, définissait la foi avec une très grande simplicité comme un simple pourtant, ce pourtant que nous décidons d'opposer à l'angoisse, au mal ou à la souffrance. L'angoisse est pourtant la confiance, l'épreuve est pourtant la joie, la mort est pourtant la vie. Oui, nous avons le droit, et j'oserais même dire, puisque nous sommes dans l'épître de Jacques, le devoir de choisir la vie, la confiance et la bénédiction en dépit de tous les maux de l'existence. Parce que cette épreuve nous permet de redécouvrir que la vie demeure toujours un don, que l'existence, malgré ses ruptures, est toujours porteuse d'une promesse d'éternité. Car Dieu, nous dit l'épître de Jacques, donne à tous et sans faire de reproche. Dans la foi, la vie n'est plus une terre à conquérir, un rêve utopique à réaliser, mais elle devient un don, un espace d'infini, le lieu d'une éternité non à prendre ou à gagner, mais à recevoir et à accueillir. Car comme le disait Luther, la loi de la vie, c'est la grâce. Ce que cette patience à laquelle nous invite l'épître de Jacques, nous permet de découvrir, c'est en fin de compte que notre existence peut toujours trouver sens en dehors d'elle-même, dans un appel ou une vocation particulière, celle de la vie, de la joie et pour finir de Dieu lui-même. La vérité, le sens de la vie ne sont donc pas à trouver forcément au fond de nous, mais peut-être aussi en dehors de nous, autour de nous, dans cette vie elle-même que nous n'avons pas choisie, mais qui nous est offerte. C'est alors que l'existence, avec ses déchirures, ses manques, ses souffrances, pourra révéler malgré tout son caractère unique et fascinant, son potentiel d'éternité. C'est alors que nous pourrons faire l'expérience du fait que l'existence, ce déjà-là qui nous caractérise et nous dépasse, n'est pas le lieu d'une souffrance première, comme lorsque Chateaubriand reprochait à sa mère de lui avoir infligé la vie, mais bien d'une joie première, d'un oui originel que Dieu nous adresse à tout instant. La vie est là, son sens lui est déjà donné, et il provient justement de ce qu'elle nous est offerte. L'existence suppose d'être confrontée à une multitude d'épreuves qui, certes, mettent en jeu notre vie tout entière et nous appellent à la requalifier, ce qui est loin d'être facile, mais qui nous permettent aussi de grandir dans la promesse que notre vie est un don et qu'en tant que telle, elle est d'origine divine. La foi, disait encore Luther, est créatrice de divinité en nous. Créatrix divinitatis in nobis. Oui, la foi est créatrice de divinité en nous parce que justement, elle nous invite à voir la vie comme porteuse d'éternité et à en vivre, en dépit du mal, de la souffrance et de la mort même. Et cela, nous ne le découvrons jamais aussi bien que lorsque nous faisons l'expérience de la rencontre, l'expérience de l'autre. C'est dans l'autre, dans celui ou celle qui vient à nous et s'impose à nous dans toute l'immédiateté et la profondeur de son être, que nous pouvons le mieux sentir cette part d'éternité qui nous habite. Car la rencontre de l'autre nous pousse justement à faire sauter les limites de notre être et à le conduire là où il ne pouvait et ne voulait aller, c'est-à-dire à son origine même, celle du divin. En répondant à cet appel qui se manifeste dans la rencontre, en prenant au sérieux cet impératif « tu dois aimer » que la rencontre de l'autre nous impose et qui nous requiert tout entier, nous avons l'occasion de comprendre la force que l'autre peut représenter et la possibilité de confesser que le mal peut toujours être changé en bien, que l'absurde peut toujours trouver sens, puisque l'amour, toujours, est possible, pour citer cette fois Kierkegaard. Alors bien sûr, il ne nous est pas interdit d'avoir peur. Nous avons le droit d'éprouver de l'angoisse face à l'inconnu, du chagrin face à la souffrance, de la peine face à la perte d'une réalité ou d'une personne qui semblait nous qualifier tout entier. Mais ce que l'Évangile nous offre, c'est en même temps que nous éprouvons cette peine, d'espérer contre toute espérance, de vivre en dépit de la mort, parce que la foi nous permet de découvrir, pour peu que nous sachions écouter, que notre vie est toujours porteuse d'éternité et que précisément, elle est toujours capable de vie, de confiance et d'amour. Alors, nous serons peut-être à même de goûter cette joie parfaite, cette joie pleine et entière dont l'épître de Jacques parle ici et auquel l'Évangile tout entier nous invite pour regarder vers demain avec confiance. L'ancien monde s'en est allé. Voici, je fais toute chose nouvelle. C'est peut-être en fin de compte à vivre de cette parole tirée de l'Apocalypse, livre de confiance et non d'horreur, que nous invite ici et maintenant l'épître de Jacques, et avec elle, tout l'Évangile. Et si nous l'entendons, alors peut-être que la foi aura commencé à renverser quelques petites murailles. L'ancien monde s'en est allé, mais voici, je fais toute chose nouvelle. Amen. Thank you. et pour incarner par le chant cette joie pleine et entière à laquelle nous invite l'épître de Jacques, je vous invite à chanter avec moi au psaume 33, les strophes 1, 2 et 5. Psaume 33, strophes 1, 2 et 5.
Quelques informations à partager dans notre agenda. C'est aujourd'hui le dernier jour des festivités liées à la vente, dont les bénéfices sont destinés à nos actions d'entraide. Donc à l'issue du culte, vous pourrez passer par la grande sacristie pour profiter des derniers articles du comptoir linge. Après quoi, vous pourrez vous rendre à la maison presbytérale où un déjeuner est préparé. Et à 14h30, les festivités s'accompliront par le concert de l'Avent qui sera donné par quelques paroissiens de l'oratoire. Donc 14h30, ici même. Demain, à 19h30, c'est le groupe biblique pour les progressants qui se réunira à salle Roberti, donc au rez-de-chaussée, aux 4 rues de l'oratoire. À 20h, nous aurons notre approfondissement théologique mensuel. Et demain, ce sera le professeur Didier Sicard qui s'en tiendra avec nous sur les questions de fin de vie. Nous savons qu'il a été notamment appelé à rédiger un rapport pour le président de la République. Et ses compétences en matière d'éthique, notamment d'éthique médicale, évidemment, ne se résument pas à ce seul point, mais c'est sur cette question qui intéresse beaucoup de monde que nous l'entendrons demain à 20h, salle Mono. Mardi, à 19h30, ce sera le groupe biblique, cette fois pour les débutants. À 20h, ce sera notre séquence initiation théologique, donc le dernier volet de notre séquence de 6 rendez-vous pour découvrir la théologie lorsque on veut recommencer un cheminement de foi et dire oui à la vie chrétienne. Jeudi, le chœur aura sa répétition hebdomadaire à 19h30, salle Mono. Les étudiants et les jeunes actifs, eux, se retrouveront à 19h30, mais dans la salle du rez-de-chaussée. Vendredi 11, de 12h30 à 13h30, l'heure musicale sera donnée par l'organiste Hervé Desarbres, donc ici même. Samedi 12, le chœur de l'oratoire s'élargit à celles et ceux qui voudront chanter lors du culte. Ce sera à 16h, salle Mono, l'occasion de préparer les chants qui seront ensuite chantés. À 18h, ici même au temple, prière silencieuse. Le lendemain, dimanche 13, ce sera un jour d'éducation biblique, donc pensez à venir avec vos enfants ou petits-enfants, arrière-petits-enfants, avec vos voisins, vos voisines. Et à 16h, c'est la fête de Noël qui sera précisément animée par les enfants de l'école biblique, du catéchisme, nos louveteaux, nos éclaireurs et nos éclaireuses. Ce sera ici même, à 16h. Et pensez à contribuer au goûter en apportant qui un gâteau, qui une boisson, en les apportant dès le matin si cela peut vous arranger. Voilà pour notre agenda. Je n'ai rien oublié parce qu'il y avait beaucoup d'informations et là c'est le risque d'en oublier. Alors il ne me reste plus qu'à vous annoncer que c'est le temps de l'offrande. Et là, il s'agit aussi de prononcer un oui à la vie. Et faites-le avec confiance. Nous nous unissons dans la prière. Éternel notre Dieu, tu nous as liés les uns aux autres dans cet enchevêtrement complexe qu'est notre vie. Fais-nous la grâce de nous rendre compte à quel point nous dépendons du courage, du labeur, de l'honnêteté, de l'intégrité de nos semblables, de leur foi, de telle sorte que nous soyons conscients de leurs besoins, que nous sachions reconnaître leur situation de fragilité, leur moment de rupture, tout en étant reconnaissant pour leur fidélité, pour leur enthousiasme, tout en sachant s'appuyer sur leur joie, sur leur espérance. Oui, aide-nous à exercer notre responsabilité vis-à-vis d'eux. Que nous sachions les écouter, les comprendre et communiquer avec eux. Nous te le demandons au nom même du Christ, celui qui nous a montré le sens de la rencontre véritable, le sens du soin de l'autre. Et c'est avec les mots de Jésus que nous nous levons pour te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à notre égard, en Christ Jésus. Frères et sœurs, allons, avec l'assurance que nous recevons la paix de Dieu au cœur même de notre vie. Amen.